Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, on parle là de Jean-Baptiste évidemment. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Passage un peu difficile parce que Jean a l'habitude un peu de mélanger toutes les idées. Il est un peu particulier, mais un très beau passage aussi pour Noël, puisque nous avons fêté la venue de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans, comme le sauveur du monde. Et Jean, à sa manière, lui aussi, parle de cette venue de Jésus-Christ. Et surtout, ce qu'il veut nous faire comprendre à nous, lecteurs, que Jésus, il n'était pas n'importe qui. C'est pas juste un enfant qui est né dans une crèche. C'est surtout, il veut démontrer que Jésus était divin, qu'il était Dieu lui-même. Et fait, lui, là, une espèce de démonstration, on pourrait dire presque philosophique, de cette divinité de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, peut-être, on va fêter Noël, on connaît Jésus, on le suit, mais est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir à la divinité de Jésus-Christ ? Parce que souvent, on le diminue à un petit bébé ou à un Jésus qui est à côté de moi tous les jours, mais il est Dieu. Vous avez déjà vu Dieu ? Non. Mais on a des descriptions de ces gens qui étaient dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est quelque chose d'absolument incroyable et ça fait peur presque quelque part. Et ce Jésus-Christ est ce Dieu-là aussi. Et c'est ce que Jean veut tout simplement dire. Et forcément, si je commence à mieux comprendre qui est Jésus et surtout sa divinité, forcément ma manière de l'adorer, de le suivre va peut-être changer aussi. On croit souvent à beaucoup de choses de la Bible, mais on n'a pas beaucoup de convictions. Et là, Jean, lui, fait une démonstration logique, j'ai envie de dire, et mathématique, pour ceux qui aiment les mathématiques, de que Jésus-Christ est effectivement Dieu lui-même. La première chose qu'il dit, c'est, je vais expliquer, que le logos, vous avez déjà peut-être entendu cette expression, le logos en grec, c'est la parole, en fait. La parole s'est incarnée. Et il dit, le logos, ou cette parole qui est divine, est de toute éternité. On parle aussi des fois du verbe, logos, le verbe, c'est la parole tout simplement. Et cette parole est l'expression en fait de la volonté de Dieu, mais aussi de la puissance de Dieu. Vous vous souvenez comment la création a été faite ? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a pris des choses, il les a mélangées, puis il a fait la terre.
Dieu dit.
Et les choses se font. Vous avez déjà essayé de faire comme ça, vous ? Vous dites quelque chose et les choses se font ? Des fois oui, mais ça ne marche pas à ce point-là, Mais c'est là toute la puissance dans la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose, les choses se font, un point, c'est tout. Et il met en relation justement les deux choses. Le verbe est productif, il fait quelque chose. Et comme Dieu était autrefois en action, il l'est toujours aujourd'hui. Il a fini sa création, il se reposait le septième jour, mais il soutient encore cette création aujourd'hui avec Jésus-Christ aussi, dit la parole. Le mot logos, c'est peut-être pour ça que Jean l'emploie, c'est que en fait c'était un terme philosophique à l'époque. Et donc, d'une certaine manière, il prend ce mot qui est dans la philo des hommes, mais maintenant, on va lui donner une vraie définition. C'est quoi ce logos ? C'est quoi cette vraie parole ? Eh bien, c'est tout simplement le Dieu unique qui est Jésus-Christ aussi. Donc, il faut un peu être philosophe pour bien comprendre ce passage. Alors, je ne sais pas, vous aimez la philo ? Non, on n'aimait pas la philo à l'école. Il y en a un petit peu dans la Bible, mais on va essayer de simplifier tout quand même. Donc, cette parole, ce verbe, ce logos, c'est l'expression de la parole de Dieu. Et il dit qu'elle est préexistante de toute éternité. Au commencement, il dit. Au commencement était la parole. Et là encore, il se souvient de Genèse 1, où Dieu était là aussi de toute éternité. Donc il fait un lien justement avec l'éternel qui va créer le monde. au commencement était la parole, ça démontre aussi que la parole n'est pas quelque chose qui a été créé. Vous avez été créé, conçu par papa et maman à un moment, mais créé, et puis on va passer l'éternité ensuite. Mais la parole, elle, est depuis toujours, en fait. Vous avez déjà essayé d'imaginer dans votre tête l'éternité, ça donne un peu le tournis. Mais il n'y a pas de début, en fait. Et la parole, si elle est créatrice, elle-même n'a pas été créée à un moment, puisqu'elle est avec Dieu, et elle est Dieu aussi. Et donc, depuis toujours, cette parole créatrice était là. On peut se demander pourquoi, à un moment, elle s'est mise à créer. Ça, je vous laisse écrire un livre là-dessus. Pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt, ou à un autre moment. Et il y a un rapport unique entre cette parole et avec Dieu, et c'est ce que dit Jean. Au commencement, elle était avec Dieu. Au verset 2, il dit, hein. Et c'est marrant parce qu'on aurait pu dire la parole était Dieu, mais il dit elle était avec Dieu. Il est en train de la distinguer. Pourquoi, d'après vous? Il y a Dieu, il y a qui encore? Il est en train de parler de Trinité, tout simplement. S'il la distingue de Dieu, ça veut dire qu'elle n'est pas Dieu lui-même, mais elle est Dieu en même temps. Et quelque part, il est en train de nous démontrer aussi la divinité, que Jésus, justement, fait partie de cette Trinité. La parole, on pourrait dire, était en compagnie de Dieu. Elle était intime à Dieu. Elle était avec Dieu et connaissait Dieu parfaitement depuis toute éternité. J'essaie d'aller dans sa logique, hein, parce que ce n'est pas toujours évident avec Jean. Et puis il dit que la parole était divine, puisqu'il dit ensuite que la parole était Dieu. Il dit d'abord qu'elle était avec Dieu, et ensuite il dit qu'elle était Dieu. Il est en train de prouver pleinement qu'elle était aussi Dieu et divine. Et en même temps, il lui attribue toutes les perfections de Dieu. Un Dieu absolument parfait. Et il dit maintenant cette parole qui est aussi Dieu, est absolument aussi parfaite que Dieu lui-même. La parole était créatrice comme Dieu, mais il dit aussi que sans cette parole, rien n'a été créé. Hein, puisqu'on l'a dit, Dieu a dit et les choses se sont faites. Donc sans elle, pas de création. Dans Colossiens 1, versets 16 à 17, il dit « Car en lui ont été créées, en Jésus-Christ, toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toute la création est pour Jésus-Christ et pour Dieu. » Et donc Jean, voilà, ce qu'il veut montrer là, simplement, c'est que la parole qui a créé ce monde est aussi distincte du Créateur, et c'est simplement pour démontrer plus tard que c'est finalement Jésus-Christ lui-même. Mais il prend son temps dans la démonstration, comme ça qu'on fait normalement. On ne va pas directement à la conclusion. Il parle d'un logos qui est incarné en Jésus-Christ, la parole a été faite chair. Jean démontre tout simplement que Dieu est descendu sur la terre au travers de Jésus-Christ et il s'est fait homme. Je sais pas si... Moi, j'aurais bien voulu être là à l'époque où Jésus était sur la terre. Bon, je ne sais pas s'ils ont tout compris à ce moment-là, mais avec le recul qu'on a, nous, aujourd'hui, et d'aller dire bonjour Jésus en sachant que c'est Dieu qui est là devant moi. En tant qu'homme, peut-être, mais c'était Dieu. Je ne sais pas, ça... Non. Oui, bonjour, au revoir, et puis on va aller faire les courses, c'est ça? Ça aurait dû faire quelque chose, quand même. Bon, nous on a le recul parce qu'on connaît beaucoup plus de choses depuis que la Bible a été écrite, mais les disciples étaient à côté d'un homme, je ne sais pas s'il avait vraiment forcément reconnu comme étant Dieu, si à un moment Pierre reconnaît certaines choses, mais est-ce qu'ils avaient vraiment pleinement compris? Alors, on n'a pas besoin d'être à côté de lui pour comprendre ces choses-là, comprendre que Jésus est tout simplement Dieu. La parole a été faite chair, la chair ça signifie plutôt la nature humaine, pas forcément le corps. En fait, quand Jésus est venu, il a pris notre nature humaine, c'est-à-dire ses joies, mais surtout aussi ses souffrances, ses tentations, tout ce que nous connaissons, nous, en tant qu'êtres humains. Il s'est incarné, mais sans l'imputation du péché, puisque Jésus n'a pas péché. Il était tenté, comme nous avons été tentés, mais il n'a jamais péché. On en parlera un jour en christologie, pourquoi, etc. Mais cette incarnation nous rappelle ce qu'on avait déjà vu il y a quelque temps, dans Philippiens chapitre 2, la kénose, vous vous souvenez ce mot que j'avais employé? On fait des petites révisions là aujourd'hui. Le dépouillement. Hein, le dépouillement. Christ a accepté de quitter sa gloire pour tout simplement se dépouiller et devenir le serviteur qu'il est devenu et servir les hommes. C'est l'union de la nature divine et de la nature humaine. Ça ne se mélange pas. Il y avait un moment où Jésus savait des choses que les hommes ne savent pas. Hein. Par exemple, il pouvait lire les pensées des pharisiens. Enfin, essayez de lire mes pensées, dites-moi ce que je pense là. Je pense à mon message surtout, mais, hein. mais des fois il a démontré cette divinité, et des fois il ne disait pas qu'il savait, par exemple, quand il reviendrait, il ne savait pas. Et des fois il déposait, on pourrait dire d'une certaine manière, sa divinité. Mais les deux étaient là, homme et humanité. S'il n'avait pas été fait homme, ça Ça ne servait à rien qu'il aille sur la croix, tout simplement. C'est un mystère. Un jour, Jésus nous expliquera tout ça là-haut, hein, pour ceux qui aiment les explications. Mais comme on a vu, comme Dieu dit et comme Dieu peut tout faire, c'est assez facile pour lui de faire cela. Et la parole a habité parmi les hommes, au verset 14. Le mot habiter, c'est comme si vous disiez « je vais dresser ma tente pour séjourner quelque part ». Vous avez déjà fait du camping ? C'est exactement la même chose. Enfin, bon, peut-être pas aussi basiquement, puisque c'est quand même Jésus qui vient dresser sa tente. On pourrait parler aussi de faire son tabernacle. Hein. Vous vous souvenez, le tabernacle, autrefois, il y avait la présence de Dieu dans ce tabernacle. Dieu, en Exode, hein, quand il est entré dans ce tabernacle, il disait aux Juifs « j'habite au milieu de mon peuple ». C'était assez être impressionnant de savoir que là-bas, là où il y avait le tabernacle, la gloire de Dieu était juste là. Alors tout le monde ne pouvait pas rentrer, il n'y a que le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an pour offrir le péché pour le peuple. Hein, à mon avis, il devait trembler. Vous imaginez rentrer dans la présence de Dieu. Il y a toute une procédure hein, pour qu'il soit absolument pur. Mais c'est ça l'idée. La parole est venue habiter parmi les hommes. Quand Jésus est venu, il a dressé sa tente parmi les hommes pendant un certain temps. Maintenant, qu'est-ce que les hommes en ont fait ? Je ne sais pas s'ils l'ont réalisé. Dieu est venu habiter sur la terre, réellement. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer Dieu avoir parcouru là, pendant 33 ans la terre au travers de Jésus-Christ ? Et tout particulièrement pendant les trois dernières années, hein, avant qu'il aille jusque sur la croix. La gloire du Logos a aussi été contemplée, hein, il est dit au verset 14, cette gloire de Jésus-Christ, et quelque part la gloire de Dieu aussi a été contemplée, certainement par les disciples, mais par tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Le mot contempler veut dire regarder un personnage qui est important pour nous, avec beaucoup d'admiration. Est-ce qu'on regarde Jésus de cette manière-là, ou voilà, ça fait 40 ans que je suis chrétien, Jésus, je commence à en avoir un peu fatigué. On s'habitue aux choses, mais est-ce qu'on a encore dans le cœur cette petite étincelle qui nous rappelle que Jésus est plein de gloire ? Et cette gloire a été observée autrefois par les miracles. Alors nous, on n'a pas vu forcément les miracles de Jésus-Christ, mais on le croit. C'était au travers de la transfiguration. Alors tout le monde n'était pas là présent quand Jésus a été transfiguré, mais il y avait quelques disciples qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont reconnu la gloire de Jésus-Christ aussi. Mais on le voit aussi au travers de l'amour que Jésus avait pour tout le monde. Hein, pour les pécheurs, pour absolument tout le monde, et surtout le pardon qu'il a accordé plus d'une fois au moment où il était sur terre, hein, mais qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Ça, c'est la gloire qui est exprimée. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, hein, mais là, je résume, en fait. Quand vous vous faites pardonner par Jésus, est-ce que vous sentez sa gloire ? On espère surtout être pardonné, hein, c'est surtout ça. On est pardonné si on demande pardon. Mais est-ce qu'on se rend compte que c'est ce Dieu glorieux qui est en train de effacer mon péché, le jeter au fond de la mer. C'est extraordinaire quand on y pense. On ne mérite pas tout cela, mais le Seigneur le fait. Et cette gloire de Christ a quitté le ciel. Il y a beaucoup de passages qui décrivent Jésus-Christ dans le ciel d'une façon très glorieuse, avec les anges, avec du bruit, avec un tas de choses. Il est venu pour venir illuminer tout simplement le monde. Et aujourd'hui, on va fêter Noël, et tout ce qui va illuminer le monde, c'est souvent les sapins de Noël ou nos petites guirlandes, hélas. J'espère que nous, on verra un peu au-delà que de ces petites lumières humaines, on va dire, et se laisser illuminer par la gloire de Dieu. Dans cette première partie, en fait, Jean fait quatre démonstrations. La première, c'est que Jésus est de toute éternité. Il est le Logos, et il est de toute éternité. Il démontre qu'il n'a pas été créé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus, par exemple les témoins de Jéhovah, disent que Jésus a été créé. Et ça, c'est une hérésie pour nous. Évidemment, ils vont dire que le Logos, c'est un petit Dieu. Mais bon, c'est autre chose. Mais Jésus n'a pas été créé. Il est avec Dieu depuis toujours, depuis toute éternité. Et ça, Jean le démontre à ses lecteurs à ce moment-là. Il est éternel et il est dès le commencement. Deuxième démonstration qu'il fait, c'est que Jésus était intime avec Dieu. C'est pas un Dieu loin, là, quelque part, ou quelque chose. Il était avec Dieu, tout simplement, intime. Il est son fils, comme la Bible nous dit. Il est une personne de la Trinité, donc il est égal à Dieu, pleinement Dieu aussi. Mais il faut le démontrer. Vous avez déjà demandé de démontrer la Trinité ? C'est mathématique, hein, je pense au prof de maths, là. Mais pour les philosophes, c'est pas évident, toujours. Hein. Mais Jean est en train de le faire, d'une certaine manière, là. Il relie les choses, en fait. Une troisième démonstration qu'il fait, Jésus est à la fois Dieu, tout en étant distingué de Dieu. Il est Dieu, mais il est aussi Jésus, c'est-à-dire une personne de la Trinité. Mais il faut distinguer les deux. Et puis, quatrième démonstration, hein, Dieu s'est incarné en prenant forme humaine. Il dit que ce Dieu tout-puissant, créateur, a accepté de devenir Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, et parcourir la terre et accomplir sa mission sur cette terre pour les hommes et devenir notre sauveur. Quatre démonstrations un peu philosophiques, on pourrait dire, mais bon, quelque part, Jean voulait prouver aux personnes qui l'écoutaient que Jésus était vraiment Dieu, tout simplement le Logos incarné, que la Bible avait annoncé bien avant. Donc quand on pense à Jésus, on peut aussi tant penser comme cela, hein. On va toujours dire Jésus il est dans une crèche, bon, c'est bien, mais il y a aussi cette façon de voir Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, ce Dieu qui est devenu homme au travers de Christ. On le sait, mais est-ce qu'on l'a vraiment saisi une fois? Est-ce qu'on en est convaincu? Parce que c'est quand même pas rien de se dire que Dieu est descendu sur la terre. Je sais pas, ça vous parle ou vous avez tellement entendu parler que c'est banal, hein. Ben, ça ne devrait pas être banal, ça devrait être plutôt notre joie, on pourrait dire. Parce que Dieu aurait pu très bien dire à un moment, écoute Jésus, je le connais, le Emmanuel, là, il est pénible, il m'énerve, il est fatigant, hein, il est pécheur. Pourquoi tu irais mourir sur une croix pour lui, honnêtement? T'es bien là avec les anges, non? Avec la gloire autour, on te sert et tout ça. Pourquoi tu irais descendre pour un gars comme ça? Ben, il l'a quand même fait pour moi et pour vous aussi. Hein. Donc c'est là où ça devient vraiment magnifique de savoir que ce Logos s'est incarné au travers de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, il va démontrer que la parole est vivante et éclairante. Dans la parole est la vie. Il dit au verset 4, « La parole était la vie. » Alors, pour offrir la vie, il faut avoir la capacité d'offrir la vie. On ne peut pas l'offrir si on n'est pas capable de créer. Et justement, il a dit que le Logos est aussi celui qui peut créer. Il est le créateur, comme Dieu est créateur. Beaucoup de passages nous disent aussi que Jésus est la source de la vie, pas seulement de la vie physique, alors il a créé l'homme, il a créé la terre, etc., mais il est aussi la source de notre vie spirituelle. Parce que je nais sur la terre, on va dire de façon physique, mais à un moment, je vais rencontrer Jésus-Christ dans ma vie, et je vais me convertir, je vais demander pardon pour mes péchés, et je vais naître de nouveau. Et là, il y a une espèce de vie spirituelle qui va commencer à naître en moi. Le monde ne connaît pas ça, parce qu'eux n'ont pas de relation avec Dieu. Mais à partir du moment qu'on se convertit, il y a une nouvelle dimension dans notre être qui, on pourrait dire, s'illumine quelque part. Et on a maintenant une relation avec Dieu. Avant, vous ne parliez pas au Seigneur. Non, s'en fichiez, vous ne savez même pas peut-être qu'il existe, tout simplement. On se parlait à soi-même, mais maintenant, quand il y a des problèmes, quand il y a de la joie, enfin, surtout quand il y a des problèmes, hélas, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, aide-moi ! Et on voit qu'il y a là maintenant une relation avec Jésus-Christ, une vie spirituelle. Mais en plus de cela, il nous a donné la vie éternelle. Parce que là, on vit notre vie physique avec notre vie spirituelle, mais à un moment, tout ça, ça va être transformé en vie éternelle. Et là, on va vivre un jour après l'autre, un jour après l'autre, pendant l'éternité. Vous avez déjà un peu compté, imaginez ce que vous allez faire, vos projets, pour l'éternité. C'est long, hein ? Déjà, on se plaint. Bon, on se plaint souvent que 100 ans, c'est pas assez long quand on vit. Alors l'éternité... On va avoir de quoi faire. Et Jésus offre justement cette vie éternelle et Noël, et la démonstration qu'il fait, c'est justement ça aussi. Et il dit « La vie était la lumière des hommes ». Alors la lumière dans la Bible est souvent l'emblème de Dieu. Dieu est la lumière. Et dans cet emblème de Dieu, il éclaire le monde tout simplement. Et de la même manière, le Logos ou Jésus-Christ éclaire comme Dieu éclaire ce monde, de la même manière. Il dit au verset 9 « Cette lumière était véritable. » Alors, ce n'est pas qu'elle est vraie simplement, mais en fait, le mot grec veut dire « elle est identique à Dieu », je fais simple, hein, « de même nature que Dieu, tout simplement. » Ce n'est pas une lumière qui dit quelque chose de faux. Hein. C'est vraiment comme si Dieu éclairait tout simplement les hommes. Et quand Jésus est venu, il a éclairé pour Dieu, quelque part, tous les hommes. Et tous les hommes ont dit « Amen, gloire à Dieu », c'est ça. Ils ont vu comment ils étaient, ils ont été éclairés sur leurs péchés et ils sont tous repentis. Dieu peut éclairer des fois les hommes, mais les hommes sont bien dans leurs ténèbres, hélas. Et on était comme ça autrefois. Celui qui confère la vie, on l'a vu tout à l'heure, va maintenant éclairer aussi les hommes. C'est un peu comme la création, quelque part, qui nous fait dire, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Vous pouvez aller n'importe où sur la terre, toutes les peuples, toutes les tribus, toutes les nations ont créé une espèce de Dieu, quelque chose qui est au-dessus d'eux. Parce que, comme dit la Bible, on a l'idée de l'éternité dans notre cœur. Et on sait qu'il y a quelque chose au-dessus.
C'est pas possible qu'on débarque comme ça de rien, même si on veut nous faire croire beaucoup de choses. Mais l'anthropologie, c'est l'étude des hommes, justement, démontre que chacun a créé son propre Dieu. C'est pas le vrai Dieu. Mais ça démontre que l'homme, à un moment, s'est posé la question de qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé tout ça aussi ? Alors, beaucoup se trompent, évidemment, mais Jésus est venu révéler le vrai Dieu. Il a éclairé les hommes. C'est la vérité divine qui illumine les hommes. Et forcément, quand on dit la vérité divine aux hommes, qu'est-ce que disent les hommes ? Amen ! On vous a éclairé une fois au début, vous n'avez pas dit Amen tout de suite. Moi non plus. On m'a éclairé, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ? Et puis quand on voit Dieu avec tous les malheurs qu'il y a sur la terre, c'est ça votre Dieu, vous le gardez. C'est ce que les gens répondent généralement, classiquement. Cette vérité divine illumine les hommes. Après, ce n'est pas parce qu'elle illumine que tout le monde va accepter cela aussi. Elle répand la connaissance de Dieu au travers de Jésus-Christ et maintenant au travers de la parole. Ça ne veut pas forcément dire que les gens vont la réceptionner. Il y avait des objectifs dans cette lumière. Elle dit, Jean, elle devait luire, éclairer, et on peut voir trois groupes d'hommes, on pourrait dire. D'abord, au verset 5, elle dit, elle est venue éclairer les ténèbres, luire dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est ce monde qui est dans le péché et qui veut absolument pas savoir la vérité. Ou du moins, qui se crée sa propre vérité dans la philo, dans la religion, etc. Mais garde ta vérité pour toi. Je suis bien dans les ténèbres, je suis bien dans mon noir, là. Vous savez, quand on vous dit la vérité, qu'est-ce que ça vous oblige à faire ?
Ça accuse.
Ça accuse, et en plus, ça pousse normalement à la repentance. Mais qui aime bien demander pardon pour ses erreurs ? Pas grand monde, Et donc forcément, quand la lumière éclaire ce monde, et ses ténèbres tout particulièrement, les ténèbres disent non, on n'a pas besoin de ça, on reste comme on est. Deuxième groupe, c'est éclairer tous les hommes, au verset 9, tout comme le Saint-Esprit aujourd'hui éclaire d'une certaine manière, ou convainc de péché, de justice et de jugement les hommes, Jésus est venu éclairer tous les hommes pendant son ministère. Et ces gens étaient autour de lui, auraient dû comprendre certaines choses. Alors, il y en a qui l'ont compris, mais pas beaucoup quand même. On aurait voulu que d'autres soient éclairés. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui continue ce travail et qui convainc les gens que Jésus est véritablement la lumière et la vérité. Après, s'ils acceptent ou non, ça c'est leur décision. Et puis un troisième groupe, il est dit, il est venu chez les siens. Alors les siens, il faut se replacer dans le contexte, c'est les juifs à ce moment-là. Les juifs attendaient le Messie. Et le Messie, Christ, est venu parmi les siens, ce peuple élu qui attendait justement la venue du Messie. Or il attend toujours, hélas, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ qu'il était le Messie. Il y en a qui vont le reconnaître quand Jésus va revenir, mais ça sera quand même au prix de beaucoup de douleur, quelque part. Donc, cette lumière est venue éclairer ces hommes, on va les mettre en trois groupes, Il est venu aussi démontrer que la lumière est Dieu, et donc que Jésus-Christ est aussi Dieu. Le monde a été fait par la lumière, au verset 10. Comme le monde a été fait par Dieu, par sa parole, et que là, il dit maintenant, le monde a été fait par la lumière, donc par Jésus-Christ, donc forcément, les deux ont fait la même chose, sont la même personne. Il montre que Jésus est tout simplement Dieu. Jean prouve que Jésus est Dieu et que la lumière dit aussi la vérité comme Dieu. Quand Jésus était en train de marcher sur la terre, quand il annonçait la bonne nouvelle, il disait la vérité de Dieu. Ça va ? Un peu ardu, ce matin, je sais. Mais c'est ce que dit Jean, tout simplement. Puis un troisième objectif, c'était conduire à la foi, au verset 7. À un moment, il s'arrête et parle de Jean-Baptiste, mais il dit qu'il n'était pas la lumière. Ce n'était pas lui la lumière, c'est Jésus la lumière. Mais il était là comme un témoin vivant de cette lumière. Et on sait que Jean-Baptiste a un ministère juste avant que Jésus commence, environ un an, où il a annoncé justement que Jésus allait venir, appelait le peuple à la repentance. Il n'était pas la lumière, mais il annonçait tout simplement cette lumière. Il préparait les gens à croire dans la lumière qui allait venir au travers de Jésus-Christ. Le pauvre, il a eu un ministère d'un an environ, et puis ensuite il s'est fait décapiter. Pas génial comme travail quand même. Et les parents qui avaient attendu leur fils et tout ça, Et voilà, pour un an de ministère et pour se faire décapiter. Ça vous dit, ça, comme ministère ? Non ? Et pourtant, c'était le travail de Jean-Baptiste. Et il était déjà annoncé aussi dans l'Ancien Testament. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes pour Dieu. Des fois, de simples ministères sont aussi valables pour Dieu. Alors, je ne vous souhaite pas de vous faire décapiter, évidemment. Ça fait mal à la tête. Mais bon, Jean était préparé. Donc, la lumière nous éclaire sur le Logos aussi, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, en éclairant le monde sur la vérité de Dieu, il disait aussi au monde, je suis Dieu moi-même. Hein. Il l'a dit plusieurs fois, et même devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, souvent un sacrificateur, il est devenu fou quand il a entendu ça. Il disait, je suis Dieu, mais personne l'a cru. Bon, imaginez qu'il ne soit pas venu encore et qu'un jour, il y a un gars qui débarque dans l'église et il dit, je suis Jésus, je suis Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire? T'es gentil, allô, police? Mais c'est un peu la même chose. Enfin, peut-être pas, parce que si cet homme commençait à faire des miracles, si cet homme commençait à guérir vraiment les gens de façon miraculeuse comme on n'a jamais vu, chasser les démons, etc., peut-être qu'on se poserait quand même des questions. Parce que ça n'existe pas sur Terre. Et en plus, après, s'il nous dit qu'il est vraiment Dieu, alors là, oui, là, je me poserais peut-être des questions. Mais à l'époque, on a vu faire tout ça. C'est pas pour ça que les gens se sont mis à l'adorer. Hein. Il y a des foules qui le suivaient, 5000 hommes, c'est 3000 là. C'était surtout pour manger, parce qu'il donnait à manger à ce moment-là. C'était pas parce qu'il était le fils de Dieu. Donc on va pas les accuser non plus, c'est pas évident. Et puis Jean va parler d'une troisième chose, c'est comment en fait les gens vont accueillir ou réceptionner cette lumière. Et donc il distingue deux groupes. Hein. D'abord ceux qui l'ont refusé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un groupe qui sont les ténèbres, voilà, verset 5. Fatiguez-vous. Hein. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors en même temps, je dirais que c'est presque normal quelque part, parce que qu'est-ce qu'il y a de rapport entre la lumière et les ténèbres, hein? Vous connaissez 2 Corinthiens 6, de quel rapport y a-t-il entre les ténèbres, entre Satan et la lumière, etc. Donc forcément, quand la lumière arrive dans les ténèbres, qu'on est bien dans notre péché, on n'a pas besoin d'être éclairé. Nous avons la vérité. Ma religion, c'est la vérité. Et ils ne l'ont point reçu. Parce qu'Éphésiens dit que le monde a l'intelligence obscurcie par le péché. Des fois, je me dis que nous-mêmes, on a été obscurcis par le péché, avec nos traditions, nos religions. Quand même, Dieu a fait un sacré effort pour qu'à un moment, on soit éclairé. Non ? Et je pense qu'il le fait pour tout le monde. Mais après, eh ben, certains l'acceptent, d'autres le refusent. Mais ce n'est pas évident de nous sortir de ces ténèbres pour nous éclairer. Ce n'est pas évident de nous faire un peu réfléchir, hein, parce qu'on est tellement habitué au péché au départ. On aime tellement ça. Et puis les autres le font aussi. Alors pourquoi moi, je serais différent des autres ? Donc merci Seigneur quand même d'avoir insisté jusqu'au moment où on soit vraiment éclairé et qu'on accepte cet éclairage dans notre vie. Hein. Mais il disait, dans Jean, il a dit, mais la lumière, lui, il n'a pas dit la lumière à lui. Ça veut dire qu'elle lui encore aujourd'hui, puisque le verbe est au présent. Et ça démontre autant que la lumière à lui à l'époque de Jésus, mais qu'elle lui encore aujourd'hui. Et Jésus, au travers de la Bible et de son Église, je crois, et du Saint-Esprit, est toujours en train de luire, et cette vérité est proclamée. On aimerait bien le crier sur les toits à Noël, hein, si on pouvait avoir un petit interview à la place du président pour dire, voilà, je vais vous parler de Jésus-Christ, ça serait bien. Je ne sais pas qui aurait le courage de le faire, mais ce serait bien de rappeler aux gens que cette lumière, lui encore, et derrière cette lumière, il y a la vie et il y a la vérité de Dieu, tout simplement. Puis un deuxième groupe qui l'a refusé, hein, c'est, on va dire, le monde, mais en même temps, il parle de tout homme, donc quelque part, il parle de l'individu, et dit le monde où tout homme ne l'a point connu. Ce logos qui est Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour faire connaître Dieu, mais le monde n'a pas cru en lui, n'a pas voulu connaître un peu plus de ce qu'il était, de cette lumière qui l'éclaire, du fait qu'il était à l'image de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Plus s'occuper aujourd'hui pour aller acheter des cadeaux, acheter la bouffe pour Noël, etc., que de s'intéresser peut-être à ce que c'est Noël ou à qui est effectivement Jésus-Christ. C'est fou comme on est prêt à faire des queues et des queues pour aller acheter du poisson ou je ne sais pas quoi dans des magasins. J'aimerais bien qu'il y ait même tout ici pour venir à l'église. Hein. Et je parle là des chrétiens seulement. Alors, je ne veux pas accuser, mais quelque part, c'est un peu triste qu'on soit si peu nombreux. Il faut faire les achats ce matin. Le monde aurait dû croire, justement, que Jésus était cette lumière, mais le monde est resté aveuglé par son péché, parce qu'il refuse délibérément la lumière dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de chance, c'est parce qu'il dit non. Je ne veux pas de la lumière. Je ne veux pas entendre la vérité sur moi. Je suis très bien dans mon mensonge. Et comme ça, je reste. Puis le troisième, et quelqu'un dans un commentaire écrivait que c'est le plus triste des versets, hein, le verset 11, « Les siens ne l'ont point reçu ». Quand on voit tout ce que Dieu a fait pour les Juifs, hein, sortis d'Égypte, dans le désert, donné la terre promise, et par des miracles, par un tas de choses, et quand ce Messie qu'ils attendaient est venu, ils disent « On n'en veut pas ». C'est triste comme verset quand même, hein, quand on y pense. Les siens ne l'ont point reçu, littéralement, on pourrait dire en grec, ils ne l'ont pas reçu dans son chez-soi. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, c'est que en fait, Jésus venait simplement chez lui, tout simplement. C'est comme si vous rentrez chez vous et qu'on vous dit « qu'est-ce que vous faites là ? Sortez de chez moi. » Enfin, de chez vous. Bizarre. Mais c'est ça, en fait, quelque part. Jésus était chez lui, dans ce peuple juif, parmi les siens, et ils ont dit « On ne veut pas de toi, dégage, tout simplement. » Les siens, évidemment, c'est Israël élu, la propriété de Dieu, hein, comme dit beaucoup de passages. Il est venu chez soi. Alors, il y en a d'autres qui le voient aussi dans le sens « Il est venu parmi les êtres humains », parce que chez soi, c'est sur la terre, hein, c'est sa maison à lui, on pourrait dire, c'est ce qu'il a créé. Donc, on pourrait aussi l'entendre dans le fait qu'il serait venu vers l'humanité en général, qui appartient aussi à Dieu. Alors, on a beau dire « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie », mais à la fin, de toute façon, j'appartiens à Dieu, que je veuille ou non, et je passerai en jugement, parce que je suis sa création. Mais les siens, donc les Juifs, ne l'ont point reçu et ils n'ont pas reconnu le Logos. C'est-à-dire, quand ils ont dit non à Jésus, ils ont dit « On ne croit pas que tu es Dieu, on ne croit pas que tu es Jésus, on ne croit pas que tu es l'Éternel. » Et vous refusez. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça peut-être que Jean aussi est en train de mettre en exergue. Hein. C'est vraiment, ils ont refusé Dieu délibérément, alors que tous les jours, ils vont l'adorer. On est curieux des fois. Hein. On peut aller adorer Dieu et le refuser pleinement. Alors, évidemment, on n'adore pas le vrai Dieu dans ce cas-là. On adore un Dieu que nous-mêmes, nous sommes conçus, et évidemment, les Juifs ont conçu leur propre religion, on va dire. Mais c'est une leçon pour nous. Je viens à l'église, je viens adorer Dieu, je viens prier Dieu, mais est-ce que je prie vraiment Dieu ? Est-ce que je l'accepte pleinement dans ma vie, tous les jours et dans tous les domaines ? Ou des fois, je ne veux pas être trop éclairé, là. Hein. Laisse-moi dans mes petites ténèbres, je suis très bien avec mon péché, avec mes difficultés. Hein. Mais heureusement, parce que ça aurait été vraiment négatif, hein, certains l'ont accepté, il dit, hein, mais tous ceux qui l'ont reçu, qui ont accepté ce logos, ça c'est nous, on l'a reçu. Alors, plus ou moins facilement, hein, parce qu'on a toute notre vie, mais à un moment, on l'a reçu. Tout le monde ne l'a pas rejeté, aussi à l'époque, hein, puisque Jean va aussi l'accepter. Et certains ont accepté d'être éclairés, accepté de croire que Jésus était la lumière, le logos était Dieu, tout simplement incarné au travers de Jésus-Christ. Certains ont cru en son nom, il est dit, hein, le nom de Jésus qui est la lumière du monde. Aujourd'hui, on croit aussi dans le nom de Jésus, on doit prier au nom de Jésus-Christ, parce que ce nom va avoir une sacrée importance, surtout quand il va revenir, hein, parce qu'il va imposer ce nom, le plus beau des noms, tout simplement, dans ce monde, au travers de son royaume. Et tout le monde dira que Jésus-Christ est le roi des rois. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un « Jésus est le roi », il vous regarde, il rigole. Mais à un moment, il faudrait lui dire, mais tu sais, à un moment, tu devras fléchir le genou et reconnaître cela, que tu veuilles ou non. T'as beau être président, roi ou je ne sais pas quoi, tu devras le faire. Alors autant le faire tout de suite. Hein. C'est mieux de fléchir le genou volontairement que d'être imposé, non ? Alors moi, je préfère le faire comme ça. Donc certains l'ont accepté. À ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire ceux qui sont passés par la conversion, hein, ce n'est pas simplement de dire, ah, j'ai entendu parler de Jésus, on s'entend bien. Il faut s'être repenti et avoir accepté qu'on est pécheur, puisque Jésus a dit la vérité sur moi et que ce péché me condamnait, mais en même temps que Jésus offrait une solution et c'est lui qui a donné sa vie pour me sauver. Donc à ceux qui l'ont connu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je ne sais pas si ça vous parle, vous êtes devenu enfant de Dieu. Galates nous dit on est adopté aussi quelque part. Vous êtes content d'être enfant de Dieu ? Ouais. Une sacrée famille quand même, hein, une belle famille. Et il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Je suis enfant de Dieu, comme un enfant est content d'avoir papa et maman. Hein. Et c'est tellement important pour lui. Vous imaginez si on arrache les... Et ça arrive des fois, hélas, on voit le gamin, comment il est. Mais moi, je suis devenu le fils et la fille de Dieu. Et c'est possible d'être, faire partie de son peuple. Hein. Et en plus, il dit que c'est possible parce que maintenant, il vient de faire une démonstration. Genre, il a dit que le Logos a tout créé, que Jésus-Christ est créateur, qu'il est de toute éternité, donc il a la puissance et l'autorité pour faire cela. Hein ? C'est pas moi qui crois que je suis devenu enfant de Dieu, simplement parce que je lis la Bible. Il l'a vraiment fait. Hein ? Et de toute façon, quand on voit nos vies qui ont changé, enfin, je le souhaite, en tant que chrétien, ben on voit vraiment que Dieu a fait de nous ses enfants et que tout est devenu complètement différent par rapport à la vie qu'on avait autrefois. Vous voudriez retourner dans votre vie de passé ? Pas moi, hein, honnêtement. Moi, ce que j'aimerais, c'est recommencer tout à zéro et vers 10 ans, me convertir. Et ça aurait été peut-être différent, hein, mais bon, Dieu a permis que ce soit un peu plus tard. L'essentiel, c'est surtout de l'accepter. Hein, quand, que ce soit à 10 ans, à 100 ans, je ne sais pas. Et à ceux qui ont cru en son nom, hein, ceux qui ont cru en son nom, c'est croire, hein, on l'a dit, c'est agir en conséquence et obéir à ce que Dieu veut. C'est une chose d'être enfant de Dieu, mais maintenant, il faut obéir. Parce que si je crois Dieu, si je crois qu'il est vraiment divin, Jésus-Christ, alors je veux aussi commencer à obéir, à marcher selon ce qu'il me demande,
selon sa vérité. Le nom exprime l'essence ou l'intimité ou la réalité d'un être. Si je crois dans le nom de Jésus-Christ, je ne crois pas seulement qu'il a existé il y a 2000 ans, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix. Je crois dans tout ce qui le concerne, c'est-à-dire dans tout ce que la Bible dit de lui, et surtout dans tout ce que la Bible demande de sa part dans ma vie. Et là, il y a du boulot. C'est bien de dire « je crois en Jésus ». Mais quelqu'un qui me prouve qu'il croit en Jésus, c'est quelqu'un qui met en marche son salut, qui démontre au travers de sa vie tous les jours, par l'obéissance qu'il a, on est loin d'être parfait, ça c'est clair, mais avec cette volonté d'obéir à Jésus-Christ. Lui, oui, il croit vraiment en Jésus-Christ et en Dieu. À cela, il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de naître de nouveau. Il dit, c'est pas le produit de l'homme, le sang ou la chair, je veux dire, c'est pas le produit de la religion ou par mes capacités, tout ça, c'est grâce à Jésus-Christ, ce Logos incarné qui a accepté d'aller sur la croix. Et grâce à cette croix, ben, nous pouvons naître de nouveau, nous pouvons être enfants de Dieu. Ce n'est pas rien quand on y réfléchit. Si beaucoup ont rejeté Christ, c'est ce que déplore hélas Jean à ce moment-là, d'autres quand même ont profité de cet éclairage qui était venu à l'époque, mais qui éclaire encore aujourd'hui pour offrir tout simplement le salut. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, dit Romain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser Dieu dans leur vie, Jésus-Christ dans leur vie. C'est triste quand on y pense. Et quand aujourd'hui on voit évidemment Noël, on comprend que c'est effectivement vrai. Maintenant, il ne faut pas se dire que bon, vu que c'est comme ça, on va arrêter de témoigner, etc. Non, 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 il y a encore des gens qui vont se convertir parce que la patience de Dieu n'est pas encore venue à son terme, comme nous dit Pierre dans son épître. Pour terminer, Jean a démontré ici la divinité de Christ. Et il l'a fait avant de commencer l'évangile, parce qu'il va démontrer beaucoup de choses ensuite dans son évangile. Mais il voulait poser les bases. Avant que je vous parle de Jésus-Christ, je veux d'abord vous dire qu'il est Dieu, personnellement, pleinement Dieu. Et ça, c'est bien aussi des fois de le faire dans notre témoignage. On parle de Jésus, ou alors on parle seulement de Dieu, parce qu'on a peur de dire Jésus. Mais il faut dire que Dieu est Jésus, que Jésus est Dieu, et qu'ils sont la même personne, faisant partie de cette Trinité. Et lui, c'était important de le démontrer d'abord, que Jésus était le Logos, le Créateur, qu'il était Dieu lui-même. Et il ne témoigne pas sans avoir une pleine conviction, et là, il nous a fait une belle démonstration, parce que je l'ai demandé un jour, si un jour je vous demandais de démontrer que Jésus est effectivement Dieu, il faut connaître la Bible, il faut aller chercher les versets, c'est faisable, il y en a plein, il y a plein de passages comme cela qui existent, mais lui, il l'a fait en pleine conviction. Il a posé les bases avant de témoigner dans son évangile de la venue de Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait. Et il est magnifique l'évangile de Jean, si on le connaît, et dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Donc fêter Noël, c'est aussi pas que penser à la naissance de Jésus-Christ dans la crèche, etc., mais c'est aussi méditer sur ce Jésus-Christ qui est le Dieu incarné. Et ça, ça pousse à la réflexion, parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend pas tout, c'est clair. Mais on peut faire un petit peu l'effort de réfléchir un peu plus cette année. Essayer d'aller chercher dans la Bible peut-être des passages qui démontrent cela, pour avoir des arguments vis-à-vis de ceux qui nous demandent justement des preuves. Le Seigneur nous demande aussi de réfléchir des fois. Des fois, on se dit, la Bible, elle est compliquée. Il y a des choses qui sont compliquées. Alors, on laisse tomber, on dit, ça, c'est pour le pasteur. Mais le pasteur, il doit réfléchir aussi. Et il passe du temps à réfléchir des fois. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est bien, des fois, de réfléchir sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Alors, pas aller trop loin, parce que moi, j'aime bien philosopher, là, on va partir un peu trop, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir, et pas forcément de manière très complexe. Le monde rejette aujourd'hui Jésus, on en est bien triste, il préfère les ténèbres, il préfère la religion, il préfère la philo, mais nous, on l'a accepté. Et c'est toute la différence. Nous, on a la chance de former une famille. Il manque pas mal de gens de la famille ce matin, c'est bien dommage, on va les gronder. On va leur tirer les oreilles. Nous sommes des enfants qui sommes sauvés. Mais pas que faire partie d'une famille, mais vous êtes sauvés. Ça veut dire que vous allez être mon frère et ma sœur pour l'éternité. Pas de chance, les gars. Vous allez devoir me supporter pour l'éternité. Quelle souffrance. Mais moi aussi, je vais devoir vous supporter. Bon, sur terre, on va supporter, mais dans le ciel, je pense que tout va aller. On va s'aimer pleinement. Ça va être magnifique. Et en plus, on est une famille qui aimait du Père et de Jésus-Christ. Et ça, c'est le message de Noël, quelque part, de savoir que Dieu m'aime pleinement, même si des fois j'ai mes doutes, même si des fois j'ai mes combats. Mais je sais que Jésus-Christ m'aime pleinement. Et cela fait de moi des témoins de la gloire de Dieu. On avait parlé de ces gens qui contemplaient la gloire de Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis témoin de la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas vu, je le crois. Mais quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie, et ce qu'il va encore faire, je
je suis réellement témoin de la gloire de Dieu. Alors, Noël, pour moi, c'est simplement dire, ben, allons témoigner, tout simplement, là où Dieu va nous placer. On va prier. Seigneur, nous voulons nous souvenir de Philippiens chapitre 2 qui nous rappelle combien tu étais Dieu lui-même, en forme de Dieu, comme il dit, dans la gloire, servi par les anges, dans quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, et tu as accepté de quitter tout cela par amour pour chacun d'entre nous, pour des gens qui ne voulaient même pas de toi, qui méritaient absolument rien, mais tu t'es plu à accepter ce rôle de serviteur, Seigneur, pour aller jusqu'à la croix, pour nous donner la seule et unique solution pour notre péché, Seigneur, de mourir à notre place. En cette période de Noël, nous voulons tout simplement te remercier, te glorifier, contempler cette gloire et pourquoi pas prendre le temps de méditer davantage ta parole, seul ou en famille. Et Seigneur, nous voulons surtout prier pour ce monde qui se plaît dans les ténèbres, alors que la lumière luit encore aujourd'hui. Nous prions que tu nous places parmi ces gens, Seigneur, pour que nous puissions nous témoigner, éclairer, être ces flambeaux, comme tu le dis dans ta parole, pour que d'autres aussi puissent accepter la vérité sur eux, accepter ta vérité qui est la vérité par excellence, non pas pour qu'ils se sentent accusés, mais au contraire pour qu'ils se repentent et pour qu'ils acceptent tout simplement t'obéir aujourd'hui. Fais de nous tes témoins dans nos familles si c'est possible et que nous puissions te glorifier au travers de ces fêtes de Noël. Et nous prions cela au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.